Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 22 août 2025. Cette fois, nous y sommes. Ça fait depuis lundi qu'on attend que le discours de Jérôme Powell commence. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Le marché était en mode attente et d'ailleurs, il le sera toujours jusqu'à 16h. Ensuite, Jérôme Powell sera sur scène et en fonction de ses mots, nous pourrons enfin savoir si le rallye d'été va vraiment continuer ou si l'été lui-même va se terminer ce soir, juste avant le week-end. Aujourd'hui, le S&P 500 vient d'aligner 5 séances de baisse consécutives, 114 points pour un total de 1,76%. Waouh, impressionnant. Quand je lis la presse, on dirait qu'on vient de perdre 15%, mais peu importe, la finance est unanime. Ce soir, Jérôme peut tout changer. Alors oui, il peut tout changer, mais avant, il va falloir quand même attendre jusqu'à 16h. Et hier soir, les marchés mondiaux étaient toujours dans le doute. Nous sommes totalement convaincus que Powell, s'il montre la moindre empathie pour nous, a le pouvoir de relancer la machine et de nous rappeler que la stratégie du buy the dip est parfaitement adaptée pour ce que nous vivons depuis une semaine. Mais en revanche, si le patron de la Fed insiste un peu trop sur le concept de lutter contre l'inflation qui n'en finit pas, les 5 séances à la suite pourraient renouveler leur contrat pour la semaine prochaine et cette fin de semaine. On ne va pas y aller par quatre chemins. La séance qui nous attend sera uniquement et seulement concentrée sur le discours de Powell. Et c'est ce que l'on appelle aux États-Unis un « make or break moment ». En gros, ça peut redonner du jus au rallye ou nous mettre au tapis pour le compte. Dans le cas de la première option, dans le cas d'un discours aligné avec les envies de Trump, un discours dovish, tout le monde va se ruer encore une fois sur la thématique de l'intelligence artificielle. Un secteur qui a perdu un peu de sa superbe depuis quelques jours et sur lequel on met un peu trop souvent l'étiquette de spéculative pour qu'on se sente rassuré. Mais il est certain que si Jérôme glisse la phrase « Mais bien sûr que je vais baisser les taux en septembre et peut-être même les mois qui suivent », toutes les théories sur les bulles ainsi que les valorisations lunaires de certaines actions seront immédiatement oubliées et Nvidia reprendra le chemin des 5000 milliards de capitalisation boursière pendant que le nouvel objectif de Microsoft sera fixé à 1 000 $ au moins. En revanche, dans le cas contraire, il va falloir se renseigner pour savoir où sont les sorties de secours et réécrire le concept du Black Friday appliqué au marché financier tout en insistant sur le fait que l'IA, c'est vraiment une bulle, bordel. Quoi qu'il en soit, et peu importe ce que Powell va dire tout à l'heure, hier, les indices américains faisaient preuve d'une certaine impatience. Les 5 séances de baisse consécutives pour le S&P 500 ne sont pas innocentes, on en a marre, et il y a une sorte de fatigue qui s'installe. Fatigue qui est générée par une avalanche de questions sur les valorisations actuelles. Et si vous ne me croyez pas, même dans le 20 minutes de ce matin, on nous explique que les experts à Wall Street s'inquiètent que l'IA soit dans une bulle spéculative, ce qui est probablement l'argument le plus optimiste que j'ai entendu ces 8 derniers mois. Oui, parce que quand les médias mainstream qui s'occupent d'habitude de savoir si Madame Jacotet a retrouvé son chien disparu il y a une semaine, commencent à faire de la stratégie boursière, c'est que ça va forcément aller dans l'autre sens. Mais peu importe. Le marché et ses intervenants ont besoin de savoir un peu plus et d'avoir une vision un peu plus claire de l'avenir. Et ce, même si nous sommes tous parfaitement conscients que l'équation qui permet de connaître l'avenir du S&P jusqu'à Noël n'est pas simple à résoudre. Hier, la tech était toujours sous pression, même s'il faut bien relativiser le concept du « sous pression » quand il s'agit de la tech et des commentaires boursiers. Par exemple, hier, Nvidia a perdu 0,24%, Microsoft reculait de 0,13% et Apple abandonnait massivement 1,5%. Il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties, jusque-là, ça sent pas encore le sell-off massif et la panique générale. Mais bon, la peur, ça fait vendre. Alors, si on dit que la tech est sous pression, ça donne des raisons pour se ronger les ongles. Par contre, si on dit qu'on se fait chier parce qu'il ne se passe rien en attendant Powell, c'est moins vendeur. Et on se demande pourquoi on n'est pas resté à Palavas-les-Flots quelques jours de plus. Mais bon, pendant que la tech était sous pression, on a quand même eu droit aux chiffres de Walmart qui nous auront au moins occupés pendant un petit quart d'heure. Walmart a quand même relevé ses prévisions pour l'année et c'est à peu près la seule chose optimiste que le marché aura retenu. Globalement, les résultats trimestriels ont déçu les analystes. Le chiffre d'affaires grimpe de 4,8% à 177,4 milliards et au-dessus des attentes, mais le bénéfice ajusté ressort à 68 cents par action contre 73 attendus. Le problème, c'est que les investisseurs attendaient énormément d'un titre qui a tout de même valorisé 36 fois ses bénéfices futurs. Pourtant, les ventes progressent de 4,5%, c'est mieux que la concurrence, et le groupe gagne des parts de marché grâce aux baisses de prix et au e-commerce. Les tarifs douaniers pèsent quand même pas mal sur les coûts et surtout, comme d'habitude, surtout pour les ménages modestes. Conséquence immédiate, le titre a chuté de 4,5%. Pire performance du S&P 500 et du Dow Jones pour la journée. On n'a donc pas trop aimé la tech sous pression et Walmart qui déçoit, mais on n'a surtout pas trop aimé entendre que certains intervenants commençaient à avoir peur d'une non-baisse des taux en septembre. Alors ça, autant vous dire que ça serait pas bon du tout du tout. Walmart l'a dit, les prix montent, la croissance du secteur privé américain a légèrement accéléré en août avec un PMI composite à 55,4 qui a été annoncé hier, son plus haut en 8 mois. L'activité reste donc en zone d'expansion portée par un rythme de création d'emplois parmi les plus élevés depuis 3 ans, même si les jobless claims disaient le contraire hier. Mais cette dynamique s'accompagne d'une inflation des prix de vente qui se trouve au plus haut depuis 3 ans. La confiance des entreprises s'améliore, mais reste nettement en retrait par rapport au début de l'année. Les incertitudes liées aux politiques gouvernementales et aux droits de douane pèsent toujours sur les perspectives. On se trouve donc dans une situation qui résume assez bien le casse-tête face auquel se trouve la Banque centrale américaine. Vous avez une économie qui montre des faiblesses sur les chiffres fournis par l'État, et de l'autre côté, les sondages privés disent le contraire. En l'occurrence, si on se base uniquement sur les chiffres du PMI d'hier, l'économie va bien, et trop baisser les taux serait une connerie qui ne risquerait que de rallumer un peu trop fort le feu qui couve sous les fesses de l'inflation. C'est le genre de nouvelles qu'on n'a pas forcément envie d'entendre à quelques heures du one-man show de Powell. Bref. Du coup, certains commencent à se demander si baisser les taux en septembre est une très bonne idée et si c'est vraiment ce que Powell va faire. D'ailleurs, pour corroborer tout ça, Beth Hamack, de la Fed de Cleveland, a jeté un seau d'eau glacée sur le mood des traders puisque pour elle, il n'y a pas de raison de baisser les taux tout de suite. Résultat, la probabilité d'un geste en septembre s'est effondrée de 92% à 74% en une semaine. Tout ça nous ramène dans le Wyoming où tout va se décider ce soir et le ton de Powell décidera si le marché respire enfin ou si on prolonge le supplice. Pendant ce temps-là, en Europe, on joue les figurants. Le CAC 40 a terminé dans le rouge, plombé par les spiritueux. Les négociations commerciales avec les États-Unis n'ont pas permis de sauver le vin et le cognac des droits de douane. Et résultat, LVMH trinque avec tout le reste. Même les grands Bordeaux deviennent des actifs risqués. Du côté de l'Asie, les marchés asiatiques sont en légère hausse, mais alors très légère, puisque le Nikkei avance de 0,01%, pendant que la Chine progresse de 0,5%. Inutile de vous expliquer que personne n'a envie de prendre le moindre risque, alors que tous les marchés de la région seront fermés lorsque Powell prendra la parole. Et puis c'est vendredi soir, c'est soirée karaoké, on a mieux à faire que de rester scotché devant CNBC pour écouter le patron de la Fed nous dire qu'il fait très attention aux data. On notera quand même que l'inflation nippone reste au-dessus de l'objectif de la BOJ, ce qui renforce les anticipations d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année au Japon. Du côté des matières premières, le pétrole a enchaîné une deuxième séance de hausse soutenue par une baisse surprise des stocks américains et l'absence de progrès dans la guerre en Ukraine, enfin plutôt dans la paix en Ukraine. En regain de risques géopolitiques et le manque de nouvelles ventes spéculatives ont renforcé le mouvement haussier. Le WTI est à 63,45, l'or à 3 376 $, le Bitcoin vaut 113 270 et le rendement du 10 ans est à 4,32. Dans les nouvelles du jour, on parle de Micron. Micron qui pourrait devenir l'autre boîte de semi-conducteurs dans laquelle Washington réfléchirait à prendre une participation directe. L'État américain qui se rapproche de plus en plus d'une stratégie de fonds activistes, ce qui est super rassurant puisque l'on sait tous que lorsque l'on mélange politique et investissement, ça finit toujours super bien. Et si ça se trouve, bientôt ils vont remplacer Powell par Bill Ackman. Et dans le domaine de l'IA qui est toujours has-been depuis 3 jours, mais qui pourrait revenir au premier plan dans 7 heures, Meta a signé un monstrueux contrat avec Google, plus de 10 milliards pour faire du cloud. Et si les deux compères se foutent sur la gueule à cause de la pub sur le net, dès qu'il s'agit de cloud et d'IA, il n'y a plus d'animosité parce qu'après tout, c'est que du pognon. Et puis on reparle de l'empereur de l'intelligence artificielle, puisque Nvidia, qui pensait avoir trouvé la martingale avec ses puces H20 taillé sur mesure pour la Chine, vient d'entendre Pékin leur dire merci, mais non merci. Officiellement pour des raisons de sécurité nationale, officieusement parce que dépendre des Américains pour l'IA, ça fait mauvais genre quand tu rêves d'autonomie technologique. Et résultat, Nvidia demande à Samsung, Amkor et même Foxconn de mettre la production sur pause, tout ça alors que Washington avait juste fini par donner son feu vert aux exportations après des mois de bras de fer. Beijing, de son côté, soupçonne les puces d'avoir des backdoors pour espionner à distance, et Jensen Huang jure que non. Mais il a surtout l'air de découvrir que dans cette partie d'échecs, Nvidia n'est qu'un pion. Moralité, la puce H20, qui devait être le pont entre Nvidia et la Chine, se retrouve à devenir plutôt le pont de la rivière Kwai. Et puis, comme c'est vendredi, on va se faire un petit retour sur Palantir, le truc qui vaut super cher dont tout le monde parle. La boîte d'Alex Karp est devenue l'enfant prodige de l'IA, portée par une hype qui ferait passer les cryptos pour un investissement value. Le problème, c'est que les chiffres ne suivent pas, enfin pas vraiment. Le célèbre short-seller de Citron Research, Andrew Left, vient de balancer la sentence et c'est devenu absurde. Selon lui, Palantir qui s'échange avec des multiples stratosphériques, genre 80 fois les ventes et 290 fois les bénéfices futurs, mérite de se retrouver plus près des 40$, soit deux tiers plus bas. Et encore, il admet que même à ce prix, ça reste très cher pour une boîte comme ça. Et il n'est pas seul. Des analystes d'HSBC ou de Jefferies tirent la même sonnette d'alarme et même Investopedia, rarement agressif, explique que l'action est carrément détachée des fondamentaux. Et quand on te dit ça dans le jargon feutré de la finance, il faut traduire par « les gars, on est en plein délire, il faut arrêter de fumer la moquette ». Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. PI actuel de 640 fois et PI futur de 225 fois. À ce stade, on n'est plus dans l'investissement, mais dans la dévotion religieuse. Palantir est devenu une secte cotée au Nasdaq, on y croit ou on n'y croit pas. Et le marché commence à avoir le vertige, le titre s'est fait démonter ces derniers jours, et tout le monde se demande si ce n'est pas le début d'une vraie correction mystique. Et puis alors, comme disait un stratégiste il n'y a pas longtemps, il y a trois choses qui sont certaines dans ce monde, la mort, les impôts et les déclarations de Jim Cramer qui marquent le top du marché. En effet, la star de CNBC a encore frappé fort ces derniers jours puisque le 13 août, il avait posté un message sur X qui disait que Palantir allait casser les 200$ à la hausse. Résultat, le titre, le même jour, est parti en baisse et perd 17% depuis le 13 août. Jim Cramer est un mythe et il mérite que l'on se penche sur son cas au niveau universitaire. En résumé, Palantir est la parfaite illustration de l'IA mania. On achète une promesse, une histoire, un storytelling, mais quand on commence à nous dire que même 60% plus bas, ça reste très cher, c'est peut-être le moment de se rappeler que la bourse n'est pas une profession de foi. Alors voilà, voilà, on y est. Powell, 16h, le grand moment, le marché retient son souffle comme si on attendait la sentence d'un juge, le S&P 500 est fatigué, les investisseurs sont nerveux et tout le monde fait semblant de bosser en jetant un œil à sa montre. Parce que oui, Powell détient la clé du jour, de la semaine et peut-être même du destin du rallye d'été et de l'automne. S'il parle doucement, façon dovish, le marché repartira en mode buy the dip comme si de rien n'était, mais s'il sort l'artillerie anti-inflation, ça peut virer au carnage en quelques minutes. Ce qui est fascinant, c'est qu'on sait très bien que la logique n'a rien à voir là-dedans. Quelques mots, un ton, un soupir, la couleur d'une cravate ou des chaussettes trop jaunes peuvent suffire à déclencher l'euphorie ou la panique. C'est absurde, mais c'est comme ça. Alors oui, le ton est peut-être angoissé, mais c'est parce que tout peut basculer en un instant. Dans quelques heures, soit on est encore fan de l'IA et de ses valorisations lunaires, soit on cherche les sorties de secours. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 8 sorties de secours dans l'appareil, 2 à l'avant, 4 au milieu et 2 à l'arrière en cas d'évacuation de l'appareil. Veuillez surtout ne prendre aucun effet personnel. Bref, Powell, c'est le maître du jeu et nous, on attend la cloche. Puisque l'on se pose des questions sur l'avenir du marché, si vous avez envie de vous faire peur tout en apprenant quelque chose au sujet d'un indicateur économique, un indicateur économique qu'on appelle le Leading Economic Index, histoire de vous rendre compte que ça hurle à la correction massive mais que tout le monde s'en fout, et je vous recommande d'aller voir ma dernière vidéo sur la chaîne Zone Bourse, une vidéo qui s'intitule « 5 fois sur 5 ça a fini en crash, que va-t-il se passer la 6e fois ?» Pour le reste, et histoire de se chauffer avant Powell, il y aura le PIB allemand qui sera publié. Ensuite, bonne chance pour Powell, et nous on se retrouve lundi matin pour de nouvelles aventures. Profitez bien, reposez-vous, et dites-vous bien que quoi qu'il arrive, à la fin, c'est toujours, toujours les bulls qui gagnent. Enfin, même si des fois, entre deux, c'est plus compliqué. À lundi, et très bon week-end.